Les lectrices, les lecteurs de Lire et Faire Lire, offrent aux enfants, enseignants et parents leur coup de cœur en littérature jeunesse. Voici des présentations d'albums ou de romans sélectionnés pour leur qualité bien sûr, mais aussi parfois pour leur originalité. Vous les retrouverez sur le blog de Lire et Faire Lire, https://lireetfairelire.laligue10.org, 10 en chiffres. Et sur le site de Thème Radio à la rubrique Podcast, bonne écoute et belle découverte.
L'étranger de Chris Van Allsburg aux éditions 2. 2, D'EUX. Chris Van Allsburg est né aux États-Unis, dans l'État du Michigan. Il commence des études de droit, puis entre aux Beaux-Arts. En 1972, après avoir passé un diplôme de sculpture, il s'installe à Providence pour parfaire sa formation de sculpteur à la Rhode Island School of Design, où il décroche un peu plus tard un poste de professeur. Il vit aujourd'hui à Providence Town, dessine, sculpte, peint et enseigne l'illustration à Rhode Island School of Design. Considéré comme l'un des auteurs-illustrateurs les plus talentueux de sa génération, il a obtenu de nombreux prix, en particulier pour ses albums Jumanji en 1982 et Boreal Express en 1986, deux livres qui ont été portés à l'écran avec le succès que l'on sait. À noter que Jumanji et Boreal Express étaient édités en français par l'École des loisirs. L'étranger, dont je vais vous parler aujourd'hui, est publié par les éditions 2, mais le format a été gardé et le livre ressemble étrangement aux deux précédents. Comme toujours dans les albums de Chris Van Allsburg, les personnages évoluent dans un monde onirique, entre réalisme et fantastique. L'automne arrive autour de la ferme des Bailey, le moment où l'air se rafraîchit et les arbres prennent des tons rouges et cuivrés. Alors que le fermier Bailey circule insouciant au volant de son camion, il heurte brusquement un gros animal, ou peut-être est-ce plutôt un humain. Le fermier décide de ramener l'inconnu chez lui pour le soigner. Et c'est ainsi que l'étranger fait irruption dans la vie des Bailey, se mêlant au quotidien de la famille le temps de son rétablissement. L'homme partage la vie des Bailey, travaille avec le fermier sans jamais montrer de signe de fatigue. Il ne parle pas, il semble avoir tout oublié. Monsieur Bailey fit venir le docteur qui écouta le cœur de l'étranger, palpa ses os, lui examina les yeux et prit sa température. Il conclut que l'homme avait perdu la mémoire. Il avait une bosse derrière la tête. « Dans quelques jours, dit le docteur, il devrait se rappeler où il est et d'où il vient. » Madame Bailey retint le docteur au moment où il allait partir. Il avait oublié son thermomètre. « Oh, vous pouvez le jeter, répondit-il. Il est brisé, le mercure est coincé au fond. » Curieuse remarque. Qu'est-il donc arrivé au thermomètre ? Monsieur Bailey prêta des vêtements propres à l'étranger. L'homme sembla déconcerté par les boutons et les boutonnières. Il se joignit au Bailey pour le repas du soir. La vapeur qui montait des plats le captivait. Il regarda Katie prendre une cuillère de soupe et souffler gentiment dessus. Alors, il fit exactement la même chose. « Brrr !» fit Madame Bailey. « Il y a un courant d'air ici. » L'homme semble avoir un rapport particulier avec la nature. Le lendemain matin, Katie observa l'étranger par la fenêtre de sa chambre. Il traversa la cour où broutaient deux lapins. Plutôt que de détaler dans les bois, ils bondirent dans sa direction. L'homme prit un dans ses mains, lui caressa les oreilles et le remit par terre. Les lapins s'en allèrent en sautillant, s'arrêtèrent et jetèrent un œil en arrière comme s'ils s'attendaient à ce que l'homme les suive. L'homme ne parle pas et ne se souvient plus de rien, mais il semble bien s'intégrer dans la famille Bailey. Pourtant, il se passe des choses étranges autour de la ferme. L'automne, qui semblait sur le point d'arriver, s'est figé. Les arbres restent verts, les températures restent chaudes, les citrouilles n'en finissent plus de grossir, jusqu'au jour où, en contemplant la feuille encore verte d'un arbre, l'étranger semble retrouver enfin ses esprits. Et il disparaît alors, aussi étrangement qu'il était arrivé. venu de nulle part, reparti on ne sait où, l'étranger pourrait ainsi personnifier l'arrivée de l'automne et de l'hiver proche. Certains pensent même qu'il s'agit d'une revisite par Chris Van Allsburg de Jack Frost, personnage issu du folklore anglo-saxon, responsable du givre, des nez et des pieds glacés par le temps, et qui donnerait sa couleur au feuillage des arbres en automne et sa forme comparable à des feuilles de fougère au givre croissant sur les vitres. Peut-être. Mais le récit reste ouvert et laisse place à toutes les interprétations. C'est une histoire du temps qui passe, servie par les pastels lumineux de l'illustrateur et un texte plein d'étrangeté et de poésie qui gagnera à être relu plusieurs fois pour en apprécier toute la subtilité.
Le vieux qui avait un grain dans la tête. Un album de Dorothée Piatek aux éditions Petit à Petit. C'est un album pour grands qui aborde le thème de la différence. Celle qui gêne, qui dérange, celle des personnes qui choisissent de vivre autrement et d'installer leur campement sous vos yeux. Comme ce vieil homme installé au bord du canal et qui entasse près de sa cabane ce qui lui tombe sous la main. Un jour, ayant compris qu'il dérangeait, qu'il en dérangeait certains, il décide de partir, mais offre aux enfants un cadeau magnifique. De belles illustrations pleines pages, parfois un peu sombres, mises en valeur par la taille de l'album. Le vieux qui avait un grain dans la tête. La maison-cabane était faite de briques de broc. C'était élevé le long du canal, sans que personne ne s'en aperçoive, et personne n'osait s'en approcher. On se contentait de la regarder de loin, en se disant que celui qui habitait là devait avoir un grain dans la tête. C'était un vieux qui vivait là. Tous les jours, quel que soit le temps, le vieux qui avait un grain dans la tête longeait le canal. Il s'était bricolé une sorte de perche qui lui permettait d'attraper, sur les eaux du fleuve, bouteilles, planchettes, canettes, cagettes. Quelquefois même, c'est dans les poubelles des mariniers qu'il dénichait des petits trésors. L'été, sur un bidon de fer coupé en deux, le vieux qui avait un grain dans la tête faisait griller quelques saucisses en regardant glisser sur le fleuve les péniches chargées de marchandises. Il pouvait rester là des heures, presque sans bouger. Rien ne semblait le déranger, ni les mouettes qui se chamaillaient bruyamment pour un reste de poisson, ni les promeneurs qui se mobilisaient pour l'observer, parfois en le pointant du doigt. Seul le cantonnier chargé de nettoyer les quais une fois par semaine prenait la peine de s'arrêter devant la maison-cabane pour papoter avec le vieux. On les voyait alors tous les deux faire de grands gestes ou scruter l'horizon, le regard tourné dans la même direction. Parfois même, le cantonnier sortait une babiole de son sac et les deux complices n'en finissaient plus de l'examiner attentivement. Ainsi vivait le vieux qui avait un grain dans la tête. Tout le monde reconnaissait que ce vieux ne posait pas de problème. Mais il gênait quand même. Ce n'était pas un exemple pour les enfants qui vont à l'école. Et c'était trop facile de ne rien faire alors que d'autres travaillent. Pas normal. Ce n'était pas bien. Il faudrait bien qu'un jour on le fasse partir et qu'on nettoie cet endroit. C'est le cantonnier qui lui a rapporté ce qui se disait. Alors, le vieux qui avait un grain dans la tête s'est assis dans son fauteuil. Il a regardé les collines derrière la ville et les péniches qui défilaient lentement. Il s'est tourné vers sa maison-cabane, vers sa carriole, vers son tas de bricoles. Puis, il s'est levé, a serré le cantonnier dans ses bras et s'en est allé le long de la berge pour réfléchir. Voilà, je vous laisse découvrir la suite de ce magnifique album. N'hésitez pas non plus à lire d'autres albums de Dorothée Piatek qui abordent chaque fois des thèmes forts pour, en direction des plus grands, de nos plus grands lecteurs.
Thème Radio, la plus locale des stations auboises.